Bonsoir, ça fait toujours très plaisir d'avoir des salles aussi remplies, chaleureuses, donc on va se tenir chaud. Merci d'être là, donc nous sommes très très contents d'accueillir effectivement ce plateau ce soir qui va réunir donc Anne-Marie Métayer, l'éditrice de Luis Sepúlveda, mais aussi traductrice. Elle nous en dira quelques mots. Luis Sepúlveda, Nayrouz Chapin qui va donc faire l'interprétariat de cet échange et Martine Laval donc, qui est conseillère littéraire du festival Lettres du Monde qui va poser des questions, échanger, dialoguer et j'espère si on a le temps échanger à la fin avec vous. C'est la 16e édition de ce festival. Nous en sommes, j'ai compté, en fait on est à 8 jours de festival, ça continue jusqu'à dimanche. Il y aura encore des auteurs qui arrivent ce soir, notamment Bernardo Carvalho, édité chez Métayer, qui arrive ce soir. Donc 19 auteurs, 14 pays représentés, 80 rencontres littéraires. Ça a démarré le 13 et nous terminerons dimanche 24 avec Dmitri Glukhovski, auteur russe. Voilà, je laisse la parole à l'échange. Merci et très bonne soirée.
Eh bien, merci pour votre accueil. Et moi, je voudrais vous dire aussi bienvenue à tous. Et merci d'accueillir nos invités, donc Anne-Marie Métayer et Luis Sepúlveda. Anne-Marie Métayer, qui fête cette année, et nous avons voulu marquer le coup, les 40 ans de sa maison d'édition. Et je pense, Anne-Marie, que pour vous, c'est comme si c'était hier.
Ah oui, moi, je n'ai pas vu le temps passer. Je suis sincère, c'est un métier qui est tellement formidable, je m'amuse tellement que le temps, je le mesure sur le physique des autres que je vois évoluer, mais moi, toujours, c'est toujours la première fois.
Mais alors, quelle mouche vous a piqué il y a 40 ans lorsque vous avez décidé de créer votre maison d'édition ? Travailler dans l'édition, c'est une chose. Créer sa propre maison d'édition, vous saviez déjà que vous vouliez couvrir toutes ces langues, toutes ces cultures ?
Non, absolument pas. Je n'avais aucune idée. J'avais été chargée de faire une enquête par Pierre Bourdieu sur les fonctions de l'éditeur dans le champ intellectuel. Et il m'a envoyé voir Jérôme Lindon, des éditions de Minuit, l'éditeur de Beckett et de Marguerite Duras, qui s'est mis à me parler. Je l'ai interviewé, je ne connaissais rien. Et il m'a dit, c'est le genre de personne qui vous dit « Vous ne savez rien ? Formidable !» Donc, il a commencé à parler et il parlait de son travail de façon tellement extraordinaire. On sentait qu'il se reconnaissait dans ce qu'il se faisait, que moi, qui étais une jeune femme un peu agitée, un peu de sociologie, un peu de journalisme, de l'enseignement de temps en temps, voilà, pour faire bouillir la marmite, je me suis dit « Mais ça a l'air formidable !» Et donc, j'ai fini l'enquête et je me suis dit « Mais je veux voir de près !» Et pour voir de près, je me suis dit, je vais monter une maison. Je n'avais pas d'argent. Et j'ai commencé avec 10 000 euros. C'était pour de quoi fabriquer 3 livres. Et j'ai plongé dans le grand bain. Et j'ai eu l'extrême, mais extraordinaire chance d'être aidée par des gens qui aimaient leur travail, des éditeurs qui aimaient leur travail et qui m'ont expliqué comment il fallait faire, des gens de la fabrication qui aimaient leur travail, qui m'ont formé, qui ont fait très très gentiment les choses. Je me rappelle du chef de machine qui tirait mes couvertures, j'allais surveiller les couleurs de mes couvertures et qui me dit très gentiment, ça se passait tout le temps, entre 6h et 7h du matin, qui me dit « Ah, elle est très belle, cette couverture, vraiment. Est-ce que vous avez remarqué qu'elle est totalement illisible ?» Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que je me suis formée sur le tas. Et bon, j'ai trouvé que c'était un métier merveilleux et que ce que ne m'avait dit aucun des confrères que j'avais interviewé pour mon étude de sociologie, c'est qu'il y avait un secret dans ce métier et il m'a fallu les 10 premières années pour comprendre ce qui était vraiment le noyau du métier.
Lequel ?
Ce sont les auteurs. Ce sont les auteurs. Sans eux, on n'existe pas. Donc, quand on, je pense que c'est très, très important d'être conscient de ça, parce qu'on ne fait pas un métier technique. On est au service de textes et d'auteurs. On a le devoir de gagner de l'argent pour pouvoir payer les auteurs. On doit, dans la maison, je parle sous le contrôle de Louis, toute l'équipe est au service des auteurs, même quand ils se conduisent comme des enfants gâtés. Parce que c'est très dur d'écrire, c'est un métier solitaire. Alors je crois qu'on peut leur pardonner plein de choses, parce qu'ils n'oseraient pas les faire s'ils étaient dans leur famille. Alors là, on est là. Et c'est vraiment ce qui fait toute la valeur de ce métier, de ces objets que l'on fait, c'est que c'est l'œuvre qui est faite par des gens extraordinaires qui sont capables de créer des mondes, qui mettent tout leur talent, toute leur vie, au service de ces objets merveilleux qui nous font vivre plus grand, qui nous font rêver plus grand. J'adore mon métier, je ne me lasse pas.
Si vous voulez. Alors, Anne-Marie, vous publiez des auteurs de langue espagnole, mais aussi de langue italienne, du portugais, de l'allemand. J'imagine, ou peut-être, vous lisez toutes les langues, vous comprenez toutes les langues ?
Non, pas du tout.
Donc,
aider. J'adorerais.
Oui.
Mais il y a des langues que je lis moi-même. C'est-à-dire l'espagnol, le portugais. Donc là, ça c'est normal. Mais je peux lire l'italien, mais je ne suis pas très sûre de moi. Mais après un verre de bon vin, je peux le parler couramment. Mais l'allemand et l'islandais et l'écossais, enfin l'anglais, non. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens dans lesquels j'ai très confiance, qui lisent comme je lis, qui ont le même engagement vis-à-vis de la littérature, qui ont, ils sont peut-être un peu plus sérieux que moi, parce que moi j'ai tendance à être un peu cruel et à m'ennuyer sur certains textes. Donc ils sont beaucoup plus intellectuels que moi. Et il y a Keith Dixon qui dirige la collection écossaise et qui me proposait des choses merveilleuses, Lanark de Alastair Gray, James Kelman, Burnside, Jenny Fagan. Si vous n'avez jamais lu des livres de cette jeune femme, Jenny Fagan, qui a à peine 40 ans, qui écrit des livres merveilleux, que nous publions, ou bien l'allemand avec Nicole Barry, que j'ai rencontré par hasard dans un aéroport. Et on a parlé, l'avion était en retard, on a parlé et on a décidé de travailler ensemble après. Il faut qu'il y ait des affinités. Ou pour l'italien, Serge Quadrupani, que je connais depuis qu'il avait 22 ans. Vous voyez, c'est un... Donc, ce sont des lecteurs qui lisent comme moi. Je ne suis jamais déçue quand je lis les livres qu'ils me proposent. Je ne peux les lire quand... J'ai très confiance en eux. Et quand la traduction arrive, je me rends compte que c'est une merveille absolue. Je voudrais vous faire une déclaration qui est que vous garderez pour vous jusqu'à demain matin. Nous avons gagné cette année le prix du meilleur livre étranger avec Christophe Hein, L'ombre d'un père. Voilà, et ça sera annoncé demain.
Ce sera officiel demain.
Demain voilà. Matin. Et à faire dans la nuit. Hein.
Et en 1992, vous publiez justement un certain Luis Sepúlveda avec un texte qui s'intitule Le vieux qui aimait les. Qui lisait, pardon, les romans d'amour. On l'a tellement lu que je bute sur le titre. Comment s'est fait votre rencontre ?
Sur un quai de gare. Non, on m'avait donné le livre Et je l'ai lu immédiatement. J'étais à l'aéroport de Francfort et j'ai failli manquer mon avion parce que j'étais tellement dedans, j'étais tellement heureuse. Vous savez, je suis très réactive à la lecture. Alors il y a des livres qui me mettent dans un état d'allégresse. Tout d'un coup, là, je tombe amoureuse d'un livre. Je suis tombée amoureuse du vieux qui lisait des romans d'amour. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il allait falloir le défendre parce que Louis était totalement inconnu et qu'il fallait vraiment mettre le paquet pour le défendre. J'ai vu que les représentants de la diffusion du Seuil, qui diffusaient mes livres, étaient... Enfin, me trouvaient bien gentil, mais que c'était, ils allaient pas se défoncer là-dessus parce que c'était un inconnu. Donc j'ai fait des épreuves, j'ai écrit à la main 150 lettres et j'ai envoyé le livre à 150 libraires. Là-dessus, il y a eu le Salon du Livre de Paris et il y avait que 5 libraires qui avaient lu le livre. Donc ces 5-là ont fait ce qu'on appelle maintenant un buzz. Un bouche à oreille en disant « Mais tu l'as pas lu, c'est pas possible. » Et ce sont les libraires qui ont fait le succès du livre. C'est parti, vous savez, d'un bouche à oreille extraordinaire. Le premier article est sorti quand on en avait vendu 36 000. Et je ne connaissais toujours pas Luis Sepúlveda. Et je n'avais pas d'argent pour payer l'avion pour le faire venir de Hambourg à Paris. Donc je me suis adressée à Étonnant Voyageur, le festival de Saint-Malo. Et ils m'ont dit, bon, on l'invite, on paye le billet d'avion. Et donc, je l'ai rencontré sur le quai de la gare Montparnasse. Et il est arrivé, et il était très étrange. Très étrange. Il est très grand. Il arrivait avec une des cannes, ou des béquilles. Je ne me rappelle plus si c'est des cannes ou des béquilles. Et il portait un corset de fer. Ouais. Alors donc, c'était Von Stroheim qui est arrivé. Et on s'est rencontrés. Et moi, j'étais très intimidée. Et on a commencé à parler dans le train. Et tout d'un coup, on était amis, comme si on se connaissait depuis toujours. Et là, à Saint-Malo, il a commencé à être persécuté par les lecteurs pour faire signer le livre. Ça a été formidable. Et quand on est reparti de Saint-Malo, eh bien, Louis, c'était un auteur célèbre.
Alors, vous avez publié beaucoup de livres de Louis, des romans, des récits, des nouvelles, des choses, comment dire, en même temps... très, très authentique et en même temps plein d'imaginaire, comme le vieux qui lisait des romans d'amour, et des nouvelles plus nostalgiques, politiques. Enfin, il y a un lien entre la poésie et la politique chez Luis Sepúlveda qui est très très fort, que tout le monde a reconnu comme étant l'écrivain du bout du monde, et de nous faire venir ici, à Bordeaux et en France et en Europe, ce bout du monde. Et en plus... Louis écrit aussi des contes qui sont adressés à la jeunesse, mais enfin, voilà.
De 7 à 77 ans.
Voilà, c'est ça, voilà. Comme, voilà. Et vous êtes amusé à faire la traduction.
Bon, j'ai fait de la traduction, j'ai payé mes études en faisant de la traduction, ce qui ne veut pas dire que j'ai du talent. Mais le premier livre que j'ai traduit, je l'ai traduit pour mon petit-fils. C'était la mouette, histoire de la mouette et du chat qui lui a appris à voler. J'ai pas pu résister. J'ai été tellement séduite par ce livre que j'ai voulu le faire, moi. Et puis après, je me suis rendu compte que ces contes animaliers de Louis, ils me touchaient toujours. Et c'était. Je me suis offert un plaisir en traduisant. Et je ne sais pas comment vous dire, c'est pour moi le dessert de ma vie d'éditeur.
Louis a quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Anne-Marie ?
Non, bonsoir, buenas tardes. No, primero debo manifestar que es un orgullo, es un privilegio. Y es un honor tener como editora a Anne-Marie Metayer.
Oui. Je dois commencer par vous dire tout le plaisir, la fierté et l'honneur que je ressens d'être publiée par Anne-Marie, d'avoir comme éditrice Anne-Marie Metayer.
Et notre premier encuentro fue como ella lo ha descrito, aunque tal vez con algunos matices.
Notre première rencontre a été exactement comme elle a raconté, mais peut-être avec quelques nuances.
Et antes de ese viaje a París y luego a Saint-Malo, antes del encuentro entre Anne-Marie y yo en la gare de Montparnasse, yo tenía un cierto prestigio de aventurero, de tipo duro, de tipo muy fuerte. Y lo que llegó a la gare de Montparnasse ese día del encuentro era realmente una ruina humana que andaba caminando con muletas. No era Indiana Jones.
Alors, avant Paris, avant Saint-Malo, avant cette rencontre sur le quai de la gare de Montparnasse, en réalité, j'avais une réputation d'aventurier, d'homme fort, dur, etc. Sauf que lorsque je suis arrivée sur le quai, j'étais vraiment un homme dans un état assez lamentable. Je n'étais pas du tout cette Indiana Jones qu'on aurait pu imaginer.
Et naturellement, quand j'ai eu la première noticia de que había una editora que estaba interesada en traducir mi primera novela al francés. Naturalmente sentí una gran alegría. Para todos es una meta ser publicado en Francia y el que diga que no es un mentiroso. Es una meta muy, muy deseada.
Lorsque j'ai reçu la nouvelle qu'une éditrice s'intéressait à mon livre et qu'elle souhaitait le traduire vers faire traduire vers le français, j'ai bien sûr ressenti une grande joie, car en réalité c'est un objectif, un vrai but en soi d'être publié en France. Et celui qui dira le contraire est un menteur.
Et quand j'ai su que que tendría una editora, empecé a pensar, ¿cómo será mi editora? Empecé a imaginar cómo será mi editora y en mi imaginación era necesariamente una señora de unos 85 a 90 años.
Donc lorsque j'ai appris que ça allait être une éditrice, j'ai commencé à réfléchir et je me demandais comment elle serait. J'ai essayé de l'imaginer et dans mon imagination, ce ne pouvait être qu'une dame de 85 ans.
Que nécessairement tenía que vivir en una gran casa en el campo con sus 99 gatos.
Et donc, ça serait une dame qui vivrait dans une grande maison à la campagne avec ses 99 chats.
Et que, luego de las primeras horas de conversación, me confiaría un gran secreto. Y ese gran secreto es que ella había tenido un affair amoroso con Ernest Hemingway.
Donc j'imaginais qu'après plusieurs heures de conversation, elle finirait par me dire qu'elle allait me confier un grand secret. Et ce grand secret, ça serait qu'elle me raconterait alors qu'elle a eu une liaison avec Ernest Hemingway.
Pero cuando en la gare de Montparnasse se acercó a mí una mujer que no tenía 85 o 90 años, sino que era muchísimo más joven y muy bella, y que además vestía una cazadora de cuero no muy apta para ir a la ópera, pero estupenda para las barricadas, me dije, esta es una compañera, esta es de las mías, ¿no? Y creo que vamos a ser amigos, y así ha sido. Tenemos una relación de escritor-editora, pero además nos une una gran amistad y ya de muchísimos años.
Mais lorsque je suis arrivée sur le quai de la gare Montparnasse et que j'ai vu une dame s'approcher de moi qui n'avait pas du tout 85 ou 90 ans, mais bien plus jeune et très belle. Elle portait en plus un perfecto, un blouson en cuir, pas du tout apte pour aller à l'opéra, mais plutôt bien pour être sur des barricades. Je me suis dit, c'est une camarade. Et donc qu'on allait devenir amis. Et c'est à partir de là que nous avons donc, au-delà de la relation écrivain-éditrice, une grande amitié qui dure depuis plusieurs années, de nombreuses années.
Et qui se concrétise encore aujourd'hui avec ce livre, donc Histoire d'une baleine blanche. C'est un livre donc traduit par Anne-Marie et illustré par Joël Jolivet. Je vous engage vraiment à regarder les images. Je peux pas, j'ai pas 36 mains. C'est vraiment très très beau. Alors, Histoire d'une baleine blanche, on en connaît d'autres de baleines blanches qui ont défrayé l'édition. Louise, qu'est-ce qui vous a pris aussi d'imaginer l'histoire avec une baleine blanche couleur de lune? C'est très beau.
Bueno, yo siempre fui un lector. Y también un admirador de la formidable novela de Melville, ¿no? Moby Dick, fue uno de mis libros de iniciación. Y he hecho creo que 4 o 5 lecturas de ese libro, ¿no? La primera como un niño, luego como adolescente, luego como hombre joven, y finalmente ya como adulto algunas lecturas, y siempre el libro me pareció una gran novela, pero sentí que faltaba algo, no a la novela, que es perfecta, faltaba algo, faltaba mencionar a un personaje.
J'ai toujours été toute ma vie un lecteur et un grand admirateur par ailleurs de Moby Dick, le roman de Melville. Je l'ai lu comme un roman lors de mon initiation, de mon apprentissage. J'en ai fait 4 ou 5 lectures lorsque j'étais enfant, puis ado, puis homme jeune, puis un petit peu moins jeune, puis adulte. Et je suis un grand admirateur de ce roman, mais quelque part j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose.
Y siempre me pregunté por qué Melville, con ese enorme talento, fue capaz de escribir detenidamente sobre 2 de los grandes protagonistas, que son el capitán Ahab y Ismael, el marinero. Pero ¿por qué olvidó mencionar a esa gran ballena blanca? A los motivos de la ballena, por qué la ballena actuó así. Y sentí que había ahí un desafío, ¿no? Y a mí me gustan los desafíos. Los desafíos son una gran invitación para escribir.
Je me suis toujours demandé pourquoi Melville, qui avait un si grand talent, avait été capable d'écrire avec beaucoup de détails sur les 2 grands protagonistes qui sont Ismaël et le capitaine Ahab. Mais pourquoi, je n'ai jamais compris pourquoi il avait fait cet oubli de ce grand personnage qui est la grande baleine blanche, les motifs qui l'ont poussé à agir ainsi, les motifs donc de cette baleine blanche. Et j'ai trouvé là un défi. J'ai toujours aimé les défis parce que ce sont justement une invitation pour l'écriture.
Entonces, sin la menor intención, porque sería una insolencia de corregir ese olvido de Melville, me propuse contar la historia de esa ballena blanca, que se sabe que realmente existió, ¿no? Y para contarla, bueno, empecé una investigación, ¿no? Sobre el comportamiento de ese cachalote, de esa gran ballena que fue vista por primera vez en las costas chilenas, o sea, muy al sur del mundo, ¿no? Y a la hora de contar la historia de esa ballena blanca, se me ocurrió que la única manera que tenía para hacerlo era alejándome yo como escritor y dejando que fuera la propia ballena la que contara su historia. Es decir, prestándole mi voz a ese enorme animal marino que fue protagonista de una saga, de una historia bastante terrible.
Et je ne voudrais pas ici faire preuve d'insolence et corriger cet oubli donc de Melville, mais je voulais simplement raconter l'histoire de cette grande baleine blanche qui a réellement existé Et pour la raconter, j'ai dû faire une enquête sur le comportement de cet énorme cachalot, qui a été vu d'ailleurs pour la première fois sur les côtes chiliennes, très au sud du monde. Et la seule façon, il m'a semblé, pour le raconter, c'était en m'éloignant en tant qu'auteur et de prêter en quelque sorte ma voix à la baleine, qui a été la protagoniste d'une saga assez terrible.
C'est vrai que c'est le, ça marche. C'est la baleine qui raconte un monde qui va basculer. Je trouve que cette baleine couleur de lune est un être pur. Elle connaît l'innocence. Elle vit en bonne entente avec les voisins, les Indiens qui habitent dans les environs. Et puis d'un seul coup arrive la modernité. Les baleiniers qui vont la massacrer, et cette baleine justement ne comprend pas. Donc ce conte est un conte merveilleux, mais aussi qui dit tout le dramatique de nos sociétés, de notre monde aujourd'hui. Et est-ce que pour vous ça a été difficile de faire parler cette baleine, d'écrire les paroles de cette baleine?
Bueno, se sabe que los escritores aprendemos mucho durante la escritura, ¿no? Durante la escritura es cuando más se aprende, ¿no? Y cuando me propuse contar esta historia, probé naturalmente contarla primero como yo, el gran narrador, contándola en tercera persona. Luego intenté que la contara un testigo, una narración en segunda persona, pero no resultaba, faltaba algo, faltaba meterse bajo la piel del gran personaje que es la ballena. Y finalmente probé escribirla así como un largo soliloquio del animal, ¿no? Contando lo que vio, lo que ha visto, lo que piensa, lo que sueña, ¿no? Y ahí fui encontrando, ¿no?, las claves para la escritura que realmente me funcionaban y que eran funcionales intrínsecamente a la historia que yo quería contar.
On sait que les écrivains apprennent en général pendant le processus de l'écriture, donc c'est lorsqu'ils écrivent qu'ils apprennent le plus. Et quand je me suis lancée dans l'écriture de ce conte, j'ai essayé au départ de parler en mon propre nom en tant que narrateur, donc avec un narrateur à la troisième personne, puis j'ai essayé également avec un témoin extérieur, donc à la deuxième personne, mais j'avais l'impression qu'il manquait à chaque fois quelque chose, il manquait de se placer réellement dans la peau de ce personnage, de cette baleine, et c'est comme ça que j'ai essayé d'écrire ce soliloque de l'animal en racontant ce qu'il voit, ce qu'il rêve, ce qu'il pense, et j'ai trouvé donc là la clé pour l'écriture, et ces clés-là, en fait, en réalité, sont intrinsèquement liées à l'histoire que je souhaitais raconter.
Y naturalmente intervinieron en muchas situaciones que son muy personales y muy íntimas, porque he hecho muchas cosas en mi vida, y una de las cosas que hice en mi vida fue acercarme a las ballenas, ¿no? Primero de una manera absolutamente accidental, cuando realicé mi primer gran viaje a conocer el mundo del fin del mundo, ¿no?, la Patagonia, con 16 años, bueno, fui ayudante del cocinero de un barco ballenero chileno, de uno de los últimos barcos balleneros que cazaban ballenas en los mares australes.
Et pendant le processus, certaines situations personnelles et intimes se sont présentées à moi, parce que il est vrai que j'ai fait de nombreuses choses dans ma vie, et parmi ces choses-là, il m'est arrivé d'approcher les baleines. La première fois, c'était accidentellement, lorsque j'ai entrepris un voyage vers le bout du monde, lorsque j'avais 16 ans, vers la Patagonie donc, et j'étais commis de cuisine dans le bateau, dans un des derniers bateaux de baleiniers chiliens. Et je travaillais donc dans les cuisines.
Como un joven de 16 años fui testigo, vi matar ballenas, pero lo que más me impresionó fue ver que en esos hombres, en esos balleneros del sur del mundo, no había ninguna alegría, había una gran tristeza. Y había una determinación. Y esa determinación era terminar con la caza de ballenas porque entendían que el mar necesitaba recuperarse y que las ballenas eran fundamentales en la recuperación de la vida del mar. Lo entendían ellos, analfabetos muchos, con muy poca educación, si se quiere, pero con una gran relación con el mar, con el elemento del cual dependían para vivir.
Et lorsque j'avais donc 16 ans, j'ai été témoin de cette chasse aux baleines. Et j'étais donc avec ces hommes et je voyais qu'ils ne ressentaient pas de joie à chasser ces baleines. Je ressentais surtout beaucoup de tristesse, malgré une certaine détermination, mais une détermination d'en finir avec cette chasse des baleines, parce qu'ils ressentaient que la mer avait besoin de récupérer, de guérir. Or, les baleines étaient fondamentales dans le processus de guérison de la mer. La mer en avait besoin, et donc ces hommes qui étaient analphabètes, qui n'avaient pas vraiment fait d'études ni compris quoi que ce soit, étaient conscients grâce à leur relation avec la mer, qu'il fallait en finir.
Luego, recordaba, y siempre lo recuerdo, algunas narraciones que escuché cuando yo era un niño, narraciones que contaban educadores o viejos cuentacuentos mapuche y que hablaban de las ballenas como unos animales no mitológicos, sino como unos animales que estaban ahí en el mar y que estaban para cumplir con una misión. Y esa misión era transportar los espíritus de los mapuches muertos hacia un lugar de encuentro, hacia un lugar más allá de la costa.
Puis j'avais le souvenir, je me souvenais des narrations, des histoires que j'entendais lorsque j'étais enfant, que me racontaient des éducateurs ou alors des conteurs, des vieux conteurs mapuches, qui parlaient de la baleine comme un animal non pas mythologique, mais un animal qui était là dans la mer pour accomplir une certaine mission, une mission qui était de transporter les esprits mapuches vers un endroit loin de la côte.
Et luego... Bueno, mi conocimiento venía también de mi participación como activista de un movimiento que se llama, una organización que se llama Greenpeace. ¿No? Yo estuve en el año 82 en una gran acción que fue bloquear el puerto de Yokohama en Japón para impedir que zarpara la flota ballenera. Y luego... participando también en acciones en la Baja California y en la península de Valdés, en la Patagonia Argentina, tuve la enorme fortuna de poder entrar al mar y bucear y acercarme a las ballenas hasta tener un bellísimo momento de una gran intimidad ahí en el mar con las ballenas.
Le deuxième moment, c'est lorsque j'ai été activiste pour l'organisation Greenpeace. J'ai participé notamment en 1982 au blocage du port de Yokohama au Japon pour empêcher que la flotte des baleiniers puisse sortir à la chasse. J'ai également eu l'occasion, lorsque j'étais en Basse-Californie, en Patagonie, dans la région de Valdés, d'entrer dans la mer, de faire de la plongée, de m'approcher au plus près des baleines et de vivre ce beau moment, ce moment d'intimité dans la mer avec les baleines.
Las acciones en la Baja California y en la península de Valdés tenían como meta acercarnos a las ballenas para colocarles unos sensores que permitirían conocer sobre sus viajes migratorios, sobre sus desplazamientos por todos los océanos de la Tierra. Pero para acercarse a la ballena, que es un animal muy tímido y evita el contacto con los seres humanos, lo evita, había que cumplir con un ritual. Y ese ritual lo aprendimos los que participamos en esa acción de una gran ecologista, bióloga marina de Canadá, que se llamaba Farley Mowat, y que nos enseñó a acercarnos progresivamente a las ballenas hasta que lográbamos llegar muy cerca de uno de sus ojos y simplemente permanecer quietos y dejar que la ballena decidiera, mirándonos con su ojo, si éramos dignos de confianza o no.
Et pour ce qui est des actions en Basse-Californie et en Patagonie, en réalité, le but, c'était de s'approcher au plus près des baleines afin de leur mettre des capteurs pour pouvoir étudier et analyser les voyages migratoires qu'elles effectuaient, leurs déplacements à travers tous les océans. Mais il faut savoir que la baleine est un animal très timide, qu'elle évite le contact avec les êtres humains. Et il fallait donc, par conséquent, mettre en place tout un rituel que nous avons dû apprendre, tous ceux qui y avons participé à ce projet, d'une grande écologiste et biologiste canadienne. Comment ça s'appelle ?
Farley Mowat.
Donc il s'agissait de s'approcher de façon progressive, très progressive et très lente, de s'approcher de l'un de ses yeux, puis de rester stable au niveau de son œil et attendre que la baleine décide si nous étions ou pas dignes de confiance.
Bueno, es muy difícil describir qué se siente al estar frente a un ojo de una ballena. Es un animal muy, muy, muy grande, eso lo sabemos, pero al mismo tiempo es un animal muy misterioso, ¿no? Pero hay algo en la mirada, ¿no? El ojo es muy pequeño en relación a la enorme envergadura del cuerpo, pero hay algo en ese círculo lleno de vida, oscuro, ¿no? Que permite entender muchas cosas. Permite entender, primero, que hay una dependencia mutua, que ese gigante del mar hoy depende de mí y que yo también dependo para vivir, ¿no?, de la existencia de ese gigante del mar. Y de eso nace una convicción. Cuando empecé a escribir esta historia, quise en todo momento sentir que mientras estaba escribiendo, estaba siendo mirado por el ojo de una ballena y que me estaba diciendo, así, sí, sigue así, así tiene que ser la historia, no te desvíes, cuenta lo esencial, porque las ballenas son seres que viven, se mueven y no ocupan más que lo esencial que necesitan para vivir. No agreden, no invaden, no violan, no son agresivas, simplemente están con una especie de mensaje que dice, déjenos estar.
Ce genre de moments sont vraiment très difficiles à décrire, d'être près de cet œil de la baleine, car c'est vrai qu'il s'agit d'un animal extrêmement grand, mais aussi très mystérieux. Mais l'œil, finalement, est très petit par rapport à toute l'envergure, à toute la taille du corps. Et il y a dans cet œil quelque chose de sombre, quelque chose qui nous permet de comprendre un certain nombre de choses. Et on comprend qu'on dépend mutuellement l'un de l'autre, car ce géant des mers dépend de moi, mais moi aussi je dépends de lui. Et donc de là est née cette conviction, lorsque j'ai commencé à écrire cette histoire, qu'il fallait que je sente, lorsque j'écrivais, que j'étais regardée par l'œil d'une baleine, et qu'elle me dirait « Oui, continue comme ça, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, va à l'essentiel, ne t'écarte pas, car les baleines sont des animaux qui vivent. Elles vont à l'essentiel, elles utilisent l'essentiel, il n'y a rien de plus, elles n'agressent pas, elles n'envahissent pas, elles sont. » Et justement, elles nous demandent de les laisser être.
Les laisser vivre. Peut-être que Louise, vous pourriez lire deux pages La lecture ? Ouais, le chapitre 2, on avait dit. Vous allez donc entendre la voix de la baleine couleur de lune, Mochadik.
La memoria de la ballena habla del hombre. El hombre siempre sintió miedo de mi tamaño y desazón porque no podía poseerme. ¿Para qué servirá un animal tan grande?, se ha preguntado el hombre desde el inicio de los tiempos, y yo lo he observado desde que se acercó por primera vez al mar. Descubrió que su cuerpo no era apto para conocer la profundidad del agua, pero podía valerse de algo que flotara para desafiar el ímpetu de las olas. Así, vi cómo el hombre se movía en la superficie sobre cuatro tablas frágiles. Nos miramos manteniendo una prudente distancia, el hombre con recelo, yo con curiosidad y asombro por su empeño. Admiré su valor e insistencia en enfrentarse a oleajes navegando en embarcaciones que no soportaban los embates contra los arrecifes ni el roce de los afilados corales cuando se adentraba en aguas poco profundas. Ya aprenderá, me decía al verlo, porfiado y tenaz, aunque siempre navegando sin perder de vista la costa, temeroso del desafío del horizonte. El hombre aprendió pronto a moverse en el mar, y de la misma manera que yo, la ballena de color luna, recibí de otra ballena y esta de otra el secreto de las mareas y las corrientes, el hombre compartió lo aprendido y se multiplicó en el mar. Sus embarcaciones se hicieron mayores, dominaron el arte de atrapar el viento en livianas superficies que llamaron velas y no tardaron en descubrir el cielo y las estrellas que les indicaron el rumbo. Entonces se atrevieron a navegar en la oscuridad y dejaron de temer al horizonte. A veces nos encontrábamos en la vasta soledad oceánica y yo, la ballena de color luna, salía a la superficie para respirar. Los veía asomados a las bordas de sus barcos y no percibía amenaza sino asombro cuando esos navegantes me señalaban y exclamaban: «Ahí está la ballena blanca». Nunca me acerqué demasiado a sus embarcaciones, respetaba su valor y los consideré también habitantes del mar. Así fueron pasando las épocas, el tiempo circular marcado por el frío o el calor que los vientos y las corrientes llevan consigo. Los hombres empeñados en su destino incierto y las ballenas surcando su salobre lar desde el inicio hasta el fin de la vida.
Je vais le faire en version française. L'homme a toujours eu peur de ma taille et son incapacité à me dominer l'a toujours inquiété. À quoi peut bien servir un animal aussi grand, se demande l'homme depuis le commencement des temps. Et je l'ai observé depuis la première fois qu'il s'est approché de la mer. Il a découvert que son corps n'était pas apte à connaître la profondeur de l'eau, mais qu'il pouvait se servir d'un objet flottant pour défier la violence des vagues. C'est ainsi que j'ai vu l'homme se déplacer à la surface de l'eau sur quatre planches fragiles. Nous nous sommes regardés, en gardant une distance prudente, l'homme avec méfiance, moi avec curiosité et étonnement devant sa ténacité. J'ai admiré son courage et son obstination à affronter les vagues en naviguant sur des embarcations qui ne résistaient pas au choc des récifs ni au frôlement des coraux aiguisés quand elles entraient dans les eaux peu profondes. Il va apprendre, me disais-je, en le voyant obstiné et tenace, mais naviguant toujours à portée de vue de la côte, craignant le défi de l'horizon. L'homme a vite appris à se déplacer sur la mer, et de la même façon que moi, la baleine couleur de lune, j'ai reçu d'une autre baleine, et celle-là d'une autre baleine, le secret des marées et des courants. L'homme a partagé ce qu'il a appris et s'est multiplié sur les mers. Ses embarcations sont devenues plus grandes. Il a dominé l'art de prendre le vent dans des surfaces légères qu'il a appelées voiles et n'a pas tardé à découvrir le ciel et les étoiles qui lui ont indiqué un cap. Alors, il a osé naviguer dans l'obscurité et a cessé de craindre l'horizon. Parfois, nous nous rencontrions dans les vastes solitudes océaniques et moi, la baleine couleur de lune, je sortais à la surface pour respirer, Je les voyais penchés sur les ponts de leur navire et je n'ai pas vu de menace, mais de l'étonnement chez ces navigateurs qui me montraient et s'exclamaient « Voilà la baleine blanche !» Je ne me suis jamais approchée trop près de leurs embarcations. Je respectais leur courage et je les ai aussi considérés comme des habitants de la mer. C'est ainsi que sont passées les époques, le temps circulaire marqué par le froid ou la chaleur apportée par les vents et les courants. Les hommes, aux prises avec leur destin incertain, et les baleines sillonnant leur foyer saumâtre du début à la fin de leur vie. Alors, Louis, cette baleine regarde les hommes avec sérénité, je peux dire, enfin, curieuse, plutôt aimable, gentille, et très vite, elle va se rendre compte que c'est pas que les hommes vont vouloir toutes les massacrer. Moi, j'y vois une métaphore de nos sociétés, enfin, c'est même pas une métaphore, c'est aussi une réalité, de nos sociétés qui sont carnassières, voraces, qui détruisent beaucoup, et que notre festival, cette année, L'Usage du Monde, voulait mettre l'accent là-dessus aussi, sur ce que nous faisons de la planète. Lorsque vous écrivez cette baleine qui est naïve, pleine d'innocence, pleine d'amour, pleine d'amitié. Vous n'avez pas senti... Est-ce que vous étiez à l'aise d'écrire ça, sachant qu'elle allait être massacrée après ?
Bueno, sí, yo conocía enteramente, ¿no?, la historia de la ballena blanca y lo que ocurrió finalmente. Pero... esa ballena de la historia, como todas las ballenas, tiene sí en el mar ese comportamiento tal vez naïf, ¿no? ese comportamiento que es la simple curiosidad. Cuando a veces en cualquier país que tenga mar, la gente se asombra de pronto al ver saltar unos delfines o unas ballenas muy cerca de la costa, ¿no? Y eso obedece a una sola razón, ¿no? Curiosidad. Curiosidad por ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Qué es aquello que brilla, todo lo que puede llamar la atención a un animal desde el punto de vista, que es el punto de vista de la más pura inocencia. La curiosidad siempre es inocente.
Bien entendu, hein, je connaissais cette histoire et je connaissais la fin de cette baleine. Mais cette baleine, comme toutes les baleines d'ailleurs, car elles ont toujours ce comportement naïf qui relève de la simple curiosité. Et c'est vrai que parfois, dans les pays entourés ou avec des côtes, on voit des fois des dauphins, des baleines qui sautent tout près des côtes. Et je pense qu'il s'agit d'une certaine curiosité pour voir un petit peu ce qu'il y a au-delà. Leur œil est attiré, leur attention est attirée par ce qui brille. Et je pense que c'est vraiment le point de vue de l'innocence, car la curiosité, en général, est innocente et naïve.
Et, bueno, es una historia literaria, et comme en todas las historias literarias, hay una evolución emocional. Y en este caso, sin traicionar la novela, sin traicionar el libro, esa evolución emocional está marcada por un punto de partida que es la inocencia hasta llegar a la ira y a la idea de justicia o de venganza. A veces esas dos ideas suelen ser confundidas, ¿no? Hay una delgada línea que separa la justicia de la venganza, ¿no? Y en esa evolución emocional es como se mueve, en ese mar de emociones, ¿no?, va nadando la ballena de esta historia.
Et il s'agit ici d'une histoire littéraire et donc par conséquent il y a une évolution émotionnelle tout au long de l'histoire et sans trahir le livre, cette évolution part Il y a un point de départ, et le point de départ, c'est l'innocence, et finit par, par arriver à, au point final qui est la colère, et à cette idée très importante de la justice, ou même de la vengeance. Parfois, ce sont deux idées d'ailleurs qu'on peut confondre, puisqu'il existe une ligne très mince qui les sépare. Cette évolution est en fait la mer dans laquelle la baleine, la mer d'émotions dans laquelle la baleine nage.
Est-ce que vous pourriez nous dire, Louise, pourquoi cette baleine s'appelle Moshadik ? D'où vient ce nom, Moshadik ? Et nous parler aussi des gens de la mer.
Sí. Bueno, cuando se conoce por primera vez, ¿no?, de la existencia de esa gran ballena blanca que había atacado a un barco. Esto se conoce por los náufragos de una embarcación llamada Essex, que llegan al puerto de Nantucket y cuentan que muy al sur del mundo han sido atacados por una gran ballena blanca y que esa ballena blanca ha matado a casi todos los tripulantes.
Quand on connaît, quand on apprend l'existence de cette baleine blanche, en fait, qu'on apprend qu'elle a attaqué un bateau, etc., on l'apprend à travers des naufragés d'un bateau nommé l'Essex. Ces naufragés qui vont arriver en fait à Nantucket, qui est un port, où ils vont raconter en fait que leur bateau a été attaqué par une grande baleine blanche qui a tué une grande partie de l'équipage.
Esta historia contada por esos náufragos, ¿no?, es oída por un hombre que trabaja en la aduana de Nantucket y que se llama Herman Melville y tiene ahí la base para escribir una gran novela que más tarde se va a llamar Moby Dick. Pero Melville también pregunta, ¿no?, a esos náufragos, ¿dónde vieron esa ballena por primera vez? Y ellos le indican que la vieron en la cercanía de una isla que se llama Isla Mocha, que está frente a la costa de Chile, que está frente al país de los Mapuche en Chile, ¿no?, y que no lo sabían Melville, no lo sabían tampoco los náufragos, pero la palabra que ellos interpretaban así o sonaba como mocha, en realidad es un viejo... Es una vieja palabra también de la lengua mapuche, que es moshu, y que significa lugar de encuentro. Y los primeros balleneros que ven a esa ballena la llaman así, Moshadik, porque vivía en las cercanías de esa isla.
Donc cette histoire, elle a été racontée par ces naufragés lorsqu'ils arrivèrent à Nantucket, aux douanes, donc, et à quelqu'un qui travaillait aux douanes à ce moment-là, qui est Herman Melville, qui a trouvé là la base pour son grand roman Moby Dick. Et Herman Melville a beaucoup posé la question et a demandé où avait été vue cette baleine. Et on lui a répondu qu'elle avait été vue près de l'île Mocha, face aux côtes chiliennes, dans le pays des Mapuches. Personne, en réalité, ni Melville, ni les naufragés, ne savait à l'époque que ce mot « mocha », en fait, était un vieux mot de la langue mapuche qui se prononçait d'ailleurs « mochu », et qui signifie, dans cette langue, « lieu de rencontre ». Et les premiers baleiniers, en fait, l'ont nommé ainsi, cette grande baleine blanche, puisque, justement, ils l'ont vue par là-bas, proche, près de l'île Mocha.
Y la relación de la gente que vive en esa parte del mundo con las ballenas es muy particular, ¿no? Una parte de la gran etnia mapuche, son dos palabras, ¿no? Mapu, que significa tierra, y che, que significa gente. Mapu, che, gente de la tierra. Una parte de esa gran etnia son... Los Lafken Che, Lafken, orilla del mar, Che, gente que vive a la orilla del mar. Y ellos suelen narrar una bellísima historia de final muy triste, ¿no?, que tiene que ver con unas ballenas que son parte, ¿no?, de su leyenda, de sus mitos, de su historia.
La relation là-bas qu'ont les gens avec les baleines est assez particulière. Donc, pour préciser, Mapuche, donc cette grande ethnie, en fait, Mapu signifie terre et Che signifie gens, donc ce sont les gens de la terre. Mais il y a une partie de cette grande ethnie qui sont les gens de la mer, Lafkenche, donc qui vivent près de l'eau, près de la mer. Et ces gens de la mer, les Lafkenche, racontaient une belle histoire. Qui fait partie, en lien avec les baleines, et qui fait partie de leur mythologie et de leur histoire.
Su mitología dice que hasta hace alguna vez, pero hace poco tiempo, cuando moría un Lafkenche, debían dejarlo a la orilla del mar con 5 piedras de ópalo en cada mano.
Et leur mythologie disait que quand un Lafkenche mourait, il devait rester au bord de l'eau avec 5 pierres d'opale dans chaque main, 5 cailloux.
Et que ces pierres qu'ils ont en chaque main, bueno, serían une forme de pago à unas ballenas qui transportarían son esprit hacia la isla de los grandes encuentros, hacia la isla Mocha.
Et donc ces pierres qui se trouvaient dans chaque main étaient nécessaires pour pouvoir payer les baleines qui allaient les transporter leur esprit vers l'île Mocha, qui était l'île donc des grandes rencontres.
Et en su mitología también estaba escrito que una vez que muriera el último Lafkenche y hubiera sido transportado por las ballenas hasta la isla Mocha, todos subirían sobre el lomo de una gran ballena blanca y emprenderían un viaje feliz hacia el oeste, siempre hacia el oeste, a salvo de todo el mal que siempre viene del este.
Et dans la mythologie également, il était écrit qu'après la mort du dernier Lafkenche, après son transport, le transport de son esprit vers l'île Mocha, tous se mettraient sur le dos d'une grande baleine et ils commenceraient à ce moment-là un voyage heureux, toujours vers l'ouest, loin du mal qui vient de l'est.
Et finalement, esa mitología dice que alguna vez, pero no hace mucho tiempo, un barco venido del este invadió esas aguas entre la isla y la tierra continental y mató a las ballenas que transportaban a los Lafkenche hasta la isla del Gran Encuentro.
Et à la fin de cette mythologie, une fois, mais il n'y a pas si longtemps, ça raconte qu'un bateau venu de l'Est a envahi cette bande de mer entre l'île et la terre et la côte, et que ce bateau a tué les baleines qui transportaient les esprits vers l'île des grandes rencontres.
Et pour último, en su mitología se dice que esas ballenas que transportaban a los espíritus estaban cuidadas por una gran ballena blanca, pero que por un motivo desconocido, un día esa ballena blanca no estaba. Y por eso la embarcación que llegó pudo matar, ¿no?, a las ballenas que transportaban los cuerpos. Y a partir de ese momento, ¿no?, el pueblo Lafkenche se sintió condenado a una tristeza eterna por no poder viajar una vez muertos, ¿no?, a la isla donde se reunían con todos sus antepasados.
Et enfin, à la fin de cette histoire, il faut savoir que ces baleines qui transportaient les esprits étaient protégées par une grande baleine blanche, mais pour un motif inconnu qui était ignoré, elle n'était pas le jour où le bateau les a tués. Et donc, depuis lors, le peuple Lafkenche vit dans une tristesse éternelle puisqu'il ne pourra pas faire ce grand voyage pour rejoindre leurs ancêtres.
Et comme la littérature est le plus grand et formidable espace de liberté, je me permettis unir cette histoire de los Lafkenche y encontrar en esa historia los motivos de por qué esa gran ballena blanca actuó de una manera determinada, ¿no? Y hundió a ese barco ballenero, el Essex, y permitió que unos náufragos llegaran hasta Nantucket, ¿no?, a contar por primera vez esa historia.
Et comme la littérature est ce formidable et grand espace de liberté qui existe, j'ai décidé d'unir cette histoire Lafkente et de raconter les motifs qui ont poussé cette grande baleine blanche à couler ce bateau et à faire finalement que les naufragés puissent atteindre le port de Nantucket et racontent que le bateau avait été coulé par cette baleine.
Merci. Enfin, Moshadi, cette baleine couleur de lune, je trouve que c'est une figure de la résistance et qu'elle va jusqu'au bout des choses auxquelles elle croit. Vous écrivez à un moment donné qu'elle se met en colère, cette baleine, Moshadi, se met en colère et qu'elle quitte une mer inconnue pour une mer de haine. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment... très très beau, très fort. Alors il ne s'agit pas forcément de tomber dans la haine, mais peut-être dans la colère, oui. Et j'aimerais savoir, pour clore, et ensuite on vous laisse la parole, mais on avait plein d'autres questions et aussi d'autres lectures, mais ça va être un peu trop long. Louis, ce qu'évoque pour vous ces mots « usage du monde », donc le titre de cette 16e édition de « Lettres du monde » ?
Il y a tant à faire avec le monde et pour le monde. El título me parece una invitación, ¿no?, a pensar en eso, en todo lo que hay que hacer y todo lo que se puede y se debe hacer.
Il y a tant à faire et à faire dans le monde en général et tant de choses que nous pourrions faire. Et ce titre m'évoque une invitation à faire ces choses-là.
No sé, cuando a veces a mí se me ocurre que es una desgracia ser contemporáneo de esta época que estamos viviendo. A veces las noticias que llegan tienden al pesimismo más absoluto. A veces uno piensa, ojalá que caiga el meteorito de una vez, ¿no?, y se acabe, ¿no? Pero por otro lado está, ¿no?, siempre la convicción, ¿no?, de que algo hay que hacer, que hay muchas cosas que podemos hacer.
Moi, c'est vrai que parfois, j'ai l'impression, on a la sensation que c'est un véritable malheur d'être un contemporain, de vivre cette époque avec toutes ces nouvelles qui tendent vraiment vers un pessimisme assez fort. Et parfois, j'ai envie de penser qu'il faudrait qu'il nous tombe dessus un météorite et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Mais je garde la conviction qu'il y a énormément de choses à faire et que nous pouvons faire.
Y a veces uno siente que tal vez ya no hay tiempo, ¿no?, para todo lo que hay que hacer. Pero por otra parte veo los pequeños esfuerzos y los grandes esfuerzos que hace mucha gente y eso permite conservar el optimismo.
Mais parfois on sent qu'on n'a pas forcément le temps pour tout ce qu'il y a à faire, justement pour l'ampleur des choses à faire, mais on voit qu'il y a des petits et des grands efforts qui sont faits et cela nous force à revenir vers un certain optimisme.
Por ejemplo, hoy por la mañana, cuando salí de mi casa y fui en coche, en auto hasta el aeropuerto, iba escuchando la radio, y en la radio una persona muy entusiasta estaba hablando de los cambios en los hábitos de consumo que tenemos hoy día todos, aparentemente, en la sociedad occidental.
Par exemple, ce matin, quand je suis partie de la maison en voiture pour aller à l'aéroport, j'ai écouté la radio et j'ai entendu une personne très enthousiaste sur les changements dans les habitudes de consommation que nous avons tous de nos jours.
Y esta persona basaba en su entusiasmo en una teoría de que hoy día tenemos más libertad para elegir lo que consumimos.
Y esta persona basó su teoría sobre el hecho de que nous avions aujourd'hui plus de liberté de choix dans ce que nous consommons.
Y que esa libertad para elegir lo que consumimos, unido a las nuevas tecnologías, nos ha transformado en compradores compulsivos vía Internet.
Et cette liberté de choix, finalement, combinée aux nouvelles technologies que nous avons de nos jours, nous a transformés en acheteurs compulsifs à travers Internet.
Hace apenas 5 años, hubo una gran campaña para terminar con los envoltorios inútiles de los productos.
Il y a 5 ans, il y a eu une grande campagne pour en finir avec les emballages inutiles des produits.
Y fue una campaña empezada por UNESCO y que continuó la Organización Mundial de la Salud. Y todo el mundo estaba de acuerdo en que si voy a comprar, un tubo, ¿no?, de dentífrico, basta con el envase que es el tubo, que tenga el dentífrico adentro. Pero ¿por qué tiene que venir en una caja de cartón? ¿Y por qué esa caja de cartón tiene que estar envuelta en plástico? ¿Y por qué para llevarla me tengo que llevar una bolsa plástica además? No, bueno, ya había un acuerdo general, hay que cambiar esto.
Et dans cette campagne qui avait été initiée par l'UNESCO, puis par l'Organisation mondiale de la santé, tout le monde en fait avait été d'accord, puisque c'est vrai que lorsqu'on va acheter un tube de dentifrice, le tube se suffit à lui-même. Pourquoi est-ce que ce tube est emballé dans une boîte en carton, puis dans un plastique, puis je dois mettre ce tube donc acheté dans une poche, dans un sac en plastique? Et en fait, il y a eu un accord général pour dire que c'était totalement inutile.
Y también llegamos a un acuerdo casi planetario de que había que reciclar, que había que cuidar, por ejemplo, el papel, que al papel había que darle una segunda oportunidad reciclándolo. Y claro, y empezamos a exigir que nuestros libros fueran en papel reciclado, ¿no?, que el papel para la impresora fuera papel reciclado. Y todo iba muy bien, porque se estaba reciclando.
Et il y a eu aussi cet accord quasiment planétaire sur le recyclage du papier, c'est-à-dire de donner une deuxième chance au papier. C'est à partir de là que nos livres sont devenus, ont été faits en papier recyclé, qu'on utilisait du papier recyclé pour l'impression, et pour l'impression avec une imprimante, et ainsi de suite.
Pero hoy día,
ça fonctionnait bien.
Pero hoy día, con esta revolución en nuestros hábitos de consumo, que son las compras vía Internet, se está usando más cartón reciclado y más papel que en toda la historia del comercio de la humanidad. Y reciclar todo ese papel y ese cartón que ahora se emplea porque tenemos nuevos hábitos de consumo y compramos por internet, en Amazon o donde sea, ¿no?, la carga ecológica de ese reciclaje es tan fuerte como la carga ecológica, ¿no?, que queremos terminar con el uso de la gasolina o el uso del diésel. Es exactamente la misma carga del peso ecológico, ¿no?, que se está produciendo.
Or, avec cette révolution et cette nouvelle habitude des achats par Internet, nous utilisons énormément de papier et de carton, quasiment plus de papier que dans toute l'histoire du commerce de l'humanité. Et pour le recycler, en fait, avec ces achats sur Internet, à travers Amazon, etc., la charge écologique pour le recycler est tellement forte qu'elle correspondrait, elle a le même poids écologique que, par exemple, si on en finissait avec l'essence ou avec le diésel.
Entonces llegamos al que podemos hacer, ¿no? Y claro, son pequeñas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, entender de una vez por todas que los libros no se compran en Amazon, se compran en la pequeña librería del barrio.
Que pouvons-nous faire? Il y a des petites choses que nous pouvons faire, comme par exemple comprendre une bonne fois pour toutes que notre livre, un livre, on ne l'achète pas sur Amazon, mais plutôt dans la petite librairie de quartier.
Et ici même, d'ailleurs. Ici même. Merci, Louis. Merci à vous d'être là. Merci, bien sûr, à vous.